Okay, I think we've got a quorum for this.
Bien, je crois que nous avons un quorum pour ce débat. Pour élaborer un programme de travail pour les consommateurs au sein de l'ICANN. J'aimerais tout d'abord me présenter pour ceux que je n'aurais pas encore rencontrés. Je suis Rosemary Sinclair. Je suis une des conseillères pour les groupes des acteurs non commerciaux au conseil GNSO. Certains de mes conseillers sont également présents cet après-midi et c'est une bonne chose. J'aimerais remercier toutes les personnes dans cette salle puisque vous avez trouvé un moment dans un programme surchargé pour venir participer à cette ce premier échange sur ce sujet. Alors, je vous propose de prendre quelques minutes pour définir ce que nous allons discuter aujourd'hui et comment nous allons le faire. Et après avoir planté le décor, j'aimerais faire un tour de table pour donner la possibilité à chacun de se présenter pour avoir une idée de qui participe à cet échange. A priori, ça n'a pas l'air quelque chose de très compliqué. Nous allons parler de trois choses. Tout d'abord, des consommateurs. Deuxièmement, ordre du jour. Troisième mot, c'est ICANN. Et je sais que nous sommes tous des experts en la matière. Ensuite, nous allons tenter de dégager certaines conclusions et identifier les étapes suivantes. Lorsque je préparais cet atelier, je me suis demandé comment on en était tous arrivés là. Comment en est-on arrivé à ce débat? C'est mon interprétation. C'est une contribution. Quand je pense à l'ICANN, je pense à l'histoire selon les phases suivantes. Une tâche technique, construire les DNIS et s'assurer que les choses soient faites. Et puis, je me suis dit, la phase suivante, c'était la coordination du marché, se fondant sur cette capacité technique. Alors, il y a ce que j'appelle là la coordination commerciale. Et ensuite, on passe à l'étape suivante de l'ICANN. Et je crois que c'est l'étape actuelle. Une attention accrue sur la responsabilité ou la reddition de comptes, ce que nous faisons tous, à qui devons-nous des comptes, qui sont les parties prenantes, les acteurs intéressés. Ce ne sont pas uniquement les participants au volet technique ou au volet commercial. C'est un groupe bien plus élargi de gens qui sont intéressés à ce que nous faisons. Et ensuite, il y a la déclaration d'engagement. J'ai personnellement pris ce document très au sérieux. Et il est apparu au moment où moi, j'ai embarqué à bord du bateau. Et j'ai lu ce document et j'ai compris ce que faisait l'ICANN. Et en le lisant, j'ai été frappée par les termes confiance du public, confiance du consommateur, choix fondé sur la confiance. Nous servons ici tous les utilisateurs d'Internet de par le monde et nous essayons de mesurer l'impact de nos décisions sur le public. Il est intéressant de revenir sur ce document, le lire et pour prêter attention à ces termes. À partir de là, je me suis dit qu'il y avait des concepts sur lesquels nous devions nous pencher. Consommateurs, intérêt public, programme de travail pour l'ICANN dans ces domaines et comment inclure cet ordre du jour dans tous les domaines d'activité de l'ICANN, pas seulement au sein des groupements des aux acteurs non commerciaux, mais vraiment dans l'ensemble de l'organisation. Et cette semaine, j'ai réfléchi tout en écoutant les débats. J'en parlais d'un modèle ouvert, d'un intérêt public vis-à-vis d'Internet, le GTLD, les efficiences économiques, les avantages sociaux, la protection des consommateurs. Et pour ce qui a trait à notre réunion d'aujourd'hui, ce que j'aimerais aujourd'hui que l'on fasse, c'est que l'on converse. Il y a ces idées qui sont compliquées, nous devons y réfléchir dans le contexte de l'ICANN. Donc c'est vraiment une conversation plutôt qu'une présentation. J'espère sincèrement que beaucoup auront quelque chose à dire sous des angles très variés. Et je souhaite réellement que la discussion porte sur le concept plutôt que de s'éparpiller sur des centaines d'aspects différents dont on a discuté toute la semaine. Je sais que les gens présents ici sont bien plus experts que moi sur ces questions, mais j'aimerais vraiment que l'on s'en tienne au concept. Je suis très contente de voir que cette conversation intéresse diverses communautés. On a des collègues qui viennent de l'ICANN, mais également de l'extérieur. L'ISOC, Taylor Reynolds de l'OCDE. Et leur point de vue va enrichir notre conversation parce qu'ils pourront peut-être nous proposer des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Voilà. Voilà pour le contexte. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que l'on va faire pendant cette heure et demie?
Non. But Bill does.
Est-ce que ça fonctionne? Vous avez la traduction? Génial, merci. Une question dans l'agenda. Est-ce qu'il est aussi question du futur review team sur Promoting Competition, Consumer Trust and Consumer Choice? Ou est-ce que c'est une discussion qui n'a pas de lien avec ce futur organisme à mettre en place? Merci.
Alors, je vais répondre de mon point de vue. À mon avis, c'est complètement distinct, c'est séparé. Mais parce que je n'ai pas connaissance de cet organisme qui doit être créé. Alors, peut-être il y a des gens qui travaillent là-dessus et peuvent nous informer. Mais dans mon raisonnement, les deux choses ne sont pas liées. Bien sûr. Je pensais que peut-être il pourrait y avoir un lien, mais non, il n'y a absolument aucun problème. Alors, je vous propose rapidement un tour de table pour que chacun ait la possibilité de se présenter. Garth Gruen, de newjohn.com. Et oui, John Tina Rellens de l'OCDE, Norrell Crank. Malheureusement, les noms et les noms des entreprises sont annoncés de manière peu audible. Vice-président de l'ALAC, vice-président de la LAC. Sylvia Herling de l'ACRALO. Gary Sherman, représentant de l'Amérique du Nord à la LAC. Evan Leibovich, président du At Large ICANN pour l'Amérique du Nord. Je viens du Japon. Beaucoup de ce qui est dit ici est très influencé par les intérêts commerciaux et c'est la raison pour laquelle je voulais assister à cette réunion. Dale Rob Hogarth, personnel de l'ICANN, et aujourd'hui je gère la participation en ligne pour cette séance. En ligne, on a Cello, Darlene, David Hogan, Gordon Chilkan, Siva Subramanian. Je fais partie du personnel de l'ICANN. Bill Graham, Internet Society. Bertrand Lachapelle, représentant français au GAC. Frank Match, représentant de la Nouvelle-Zélande au GAC. Conseil consultatif de At Large. Et on va avoir besoin d'un micro pour les personnes qui se trouvent derrière moi. Adam Peake, ALAC, CathyClyman.org, registraire public, Wolf Ludwig, président de ALAC Europe 1, secrétariat de l'ACRALO, Carlton Samuels, ALAC, Bo Brandler, ALAC, Christopher Wilkinson, Internet Society. Avery Doria, NCSG, et membre aussi de deux ALS. Réaction hors micro. Wendy Seltzer, NCSG, membre individuel de NRALO. Dave McGuire, 463. Fia Alexander, ministère du Commerce. Steve Del Baggio, de NetChoice. Tom Leder, Institut de politique technologique. Javier Savinien, de Telefonica. Luca Belli, Université de Paris, Panthéon SS. Je viens d'Allemagne. Graham McDonald de ADA. Je viens d'Allemagne. Je viens de Deutsche Telekom et je fais partie du conseil GNSO. Roland Perry, RAP NCC. Lynn Sennemore, Internet Society. Marilyn Cade, stratégie ICC. Rosemary, puisque l'on va saisir le procès verbal, je vous invite à mentionnez votre nom si le modérateur ou moi-même ne mentionnons pas votre nom. Mary Wong, NCSO, conseiller GNSO. Antoinette Johnson, .bi. Bien, maintenant, nous savons qui chacun est. Donc, je vous ai parlé des concepts et de la notion de consommateur. Je me demande qui souhaiterait contribuer sur cette partie de notre débat. Bill? Evan? Quelqu'un d'autre? Alors, Bill, pour commencer, merci, Rosemary. Bill Graham. Merci de m'avoir invité à ce panel. J'ai relu la déclaration d'engagement et j'ai noté un certain nombre de concepts très vastes liés à la notion de consommateur et je crois qu'il faut les mentionner dès le départ. D'un côté, il est question de la façon dont l'Internet est une technologie transformatrice qui permet aux gens de s'approprier, facilite le commerce, et permet un flux libre sans entrave d'informations et parle également d'un autre élément de l'Internet, son succès, le fait que c'est hautement, un réseau hautement décentralisé qui permet et encourage les processus décisionnels au plan local. Par ailleurs, la déclaration vise à promouvoir la concurrence et la confiance des consommateurs et les choix des consommateurs sur le marché des DNSI. Et il est question des avantages pour les consommateurs des nouveaux GTLD, y compris la mesure dans laquelle l'introduction ou l'extension des GTLD promouvoit la concurrence, la confiance des consommateurs et le choix des consommateurs. Il est également question de la politique « who is » et si elle est efficace dans sa mise en œuvre pour répondre aux besoins légitimes des agences de répression et pour promouvoir la confiance des consommateurs. Dans ces deux notion, le concept de consommateur devient un peu plus problématique dans le contexte de l'Internet. Je me demande si le terme consommateur pour décrire un rôle prédominant sur l'Internet est adéquat. S'il y a absence de la composante sociale ou des changements qui interviennent sur Internet, nous amène à poser la question de savoir s'il ne faudrait pas parler d'utilisateur au lieu de consommateur. Il y a bien entendu d'autres options. Mais en laissant ceci de côté, à l'ICANN, nous devons penser aux consommateurs dans le contexte des domaines Internet. Alors, qui est le consommateur dans ce contexte? Il me semble que ce sont les registrants et registraires dont il est essentiellement question, là. Et les consommateurs de noms de domaine ont un produit. Et là, vous pouvez dire qu'une protection traditionnelle des consommateurs et de choix de consommateurs est justifiée. Protection contre les fraudes, contre les comportements peu scrupuleux dans la façon dont les GTLD sont octroyer, protection contre les comportements visant à limiter le choix, éviter une ruée sur les GTLD. Et les noms de domaine ont également d'autres rôles. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y a une grande partie de personnes qui ont des relations avec les espaces de noms de domaine. Ce sont les consommateurs. Mais le deuxième élément dans la déclaration d'engagement, c'est « who is », ICANN et ses partenaires, le gouvernement américain, réfléchissent peut-être à un rôle accru de protection des consommateurs. Et là, est-ce qu'on envisage pour l'ICANN d'assurer un rôle de contribuer à l'effort des agences de répression en complément de ce qu'elles font déjà? Pour moi, les registraires et registrants sont les premiers consommateurs pour l'ICANN dans ce contexte-là. Et la même protection contre des concurrents, contre des comportements déloyaux et de la fraude est quelque chose qui s'impose. Mais les relations aussi ne sont pas évidentes parce qu'ils sont producteurs dans l'environnement Internet mondial. Donc ici aussi, la notion de consommateur me semble quelque peu peu adéquate. Il faut une compréhension de qui est consommateur, qui est utilisateur, quels sont les rôles qui sont pertinents pour le choix des consommateurs. Il va être très difficile de comprendre le rôle de l'ICANN là. Et pour s'agissant de ce que Sébastien a dit, réviser ceci va être très difficile. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et J'y reviendrai par la suite. Merci, Bill. Evan?
I just want to expand on what Bill was saying.
J'emboîte le pas sur ce que Bill vient de dire. J'ai fait quelques recherches pour réfléchir à cette question. Il n'y a pas une seule définition dans un dictionnaire du mot consommateur qui n'implique pas une transaction financière. Ça, c'est une distinction très intéressante. Ellac et At-Large ont traité du rôle du consommateur dans la chaîne alimentaire ICANN, pour l'appeler ainsi. ICANN au sommet, registrant. Alors, qui est au bout de cette chaîne? La personne qui fournit de l'argent ou l'utilisateur final qui ne fait pas partie de la transaction, mais qui est très concerné? Si quelqu'un voit un café Internet avec un Wi-Fi public et ils utilisent l'Internet, ils ont toujours la possibilité d'utiliser des services, d'être victimes de hameçonnage. Ils sont toujours vulnérables à tout ce qui peut mal se passer. Et pourtant, ils ne sont pas partie intégrante de la transaction financière entre l'ICANN et les diverses parties. Et At-Large, je ne peux pas parler en nom d'At-Large, mais ça a occupé pas mal de nos débats quant à notre rôle. S'agissant de cette question, l'utilisateur final d'Internet est quelqu'un qui achète des choses de temps en temps sur des sites Internet et donc est un consommateur sur l'Internet ou au travers de la publicité ou d'autres modèles d'activité économique. Et cette partie de la transaction doit faire l'objet d'une protection. Nous en sommes convaincus et en termes généraux n'a pas fait partie du processus décisionnel de l'ICANN. À mes yeux, un consommateur n'est qu'un sous-produit du public qui fait des transactions, opère des transactions. Bertrand?
Thank you too for inviting me here. I'm not...
Merci de m'inviter ici. Je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de politique de consommation au plan national.
Nous sommes intéressés par les commentaires de la présentation de Bill. Et Evan a dit cependant qu'il n'y avait pas de mention du mot registrant. Et je dois avouer que c'est quelque chose que j'ai trouvé tout à fait fascinant au cours des 4 ou 5 dernières années pendant lesquelles j'ai accordé mon attention à cette organisation. Le nombre de fois où on entend le mot registrant est incroyablement limité. Et la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont censés mal se comporter. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'eux, c'est parce qu'ils se comportent mal. Et cette organisation, et le point de vue de ICANN, c'est que cette organisation est au service des personnes qui ont besoin d'utiliser les noms de domaine. Je déteste utiliser le concept de nom de domaine comme un produit, mais à ce niveau-là, que ce soit à un niveau personnel ou non, moi, ça m'intéresse de savoir comment ICANN s'assure que ce soit fait de telle manière que cela fonctionne correctement. Donc, je vous encouragerais vraiment à mettre l'accent sur les registrants et je vous engagerais à voir comment ces registrants sont pris en considération dans les structures de ICANN et particulièrement les registrants individuels. C'est un regroupement, c'est un groupe qui n'a pas de chez soi, en quelque sorte, qui n'a pas de foyer. C'est un peu triste, parce qu'en fait, ce sont ceux qui payent pour ICANN. Et je continue à insister sur le fait qu'il n'y a pas de financement du tout de ICANN par les registraires et les registres, de la même manière que votre boucher ne paye pas la TVA que vous payez lorsque vous achetez un steak. Lorsque vous achetez quelque chose à votre boucher, vous payez une taxe et le boucher est le receveur de cette taxe. Et c'est un peu le même phénomène. Il Frank Match. Je me présente comme le représentant de la Nouvelle-Zélande au GAC, mais j'ai un autre chapeau dans ce forum. Je suis aussi le président de Internet New Zealand, de Nouvelle-Zélande, qui, à certains égards, exerce certaines fonctions pour l'ISOC en Nouvelle-Zélande, donc la société Internet. Et nous redirigeons le registre ..nz. Alors, avant ça, j'ai présidé le comité de supervision pour .nz qui se penchait sur la question du domaine, sur le champ réglementaire dans lequel .nz fonctionnait. Alors, nous mettions les registrants au centre et nous dirigeons .nz et nous continuons à le faire avec le registrant comme personne clé dans la chaîne des cotisations parce que le système réglementaire consiste à offrir un marché sûr pour les gens qui enregistrent des noms de domaine dans l'espace .nz. Alors, en ce qui concerne ICANN, il y a un consommateur de services de ICANN, c'est le registrant. Il paye de l'argent pour une transaction et le produit dont on parle ici, le produit qu'ils achètent, c'est l'accès au système de nom de domaine et à Internet, à des services sur Internet. C'est dangereux d'élargir trop au-delà de ce point-là. Un des problèmes que nous avons mis sur la table dans la discussion sur les problèmes des gouvernances d'Internet, c'est la définition d'ICANN comme les fournisseurs techniques d'un service à base étroite. Je pense qu'en fait, ICANN n'en est qu'une partie. Le système de gouvernance est beaucoup plus large et ICANN n'en est qu'une partie. Donc, je crois qu'il faut ne pas trop sortir de notre espace. Alors, donc ce serait un avertissement que je lancerai. Et si on regarde l'intérêt public dans son ensemble, nous avons at large, la communauté at large, pas le LAC, mais la communauté at large. Et ça, c'est l'intérêt plus large du public lié à ICANN. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas trop élargir notre champ de concentration. Et pour en revenir à mon chapeau du GAC, le boulot du GAC, le boulot du gouvernement, c'est de défendre l'intérêt public. Et c'est un domaine, des domaines où l'intérêt du public doit faire partie de nos préoccupations. Merci beaucoup. Je m'appelle Tyler Reynolds de l'OCDE. Il y a en fait trois concepts que j'aimerais bien mettre sur la table et qui s'appliquent généralement aux télécommunications. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces principes généraux peuvent s'appliquer à ICANN aussi. Je dois tout d'abord vous présenter mes excuses parce que vous êtes associé aux firmes de télécommunications et les firmes de télécommunications sont parmi les sociétés les plus détestées par les consommateurs. En tout cas, si on regarde le nombre de plaintes, si on discute avec les agences de consommateurs, et si on demande quel pourcentage des plaintes portent sur les services des télécommunications, c'est une proportion énorme. Donc je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Il y a trois points sur lesquels je me concentrerai et ils s'appliquent aux télécommunications en général. Tout d'abord, la transparence. Ensuite, la liberté de mouvement des consommateurs, c'est-à-dire leur permettre de changer de fournisseur rapidement. Et finalement, les systèmes de compensation de dédommagement pour les consommateurs. Comment les consommateurs peuvent-ils résoudre les problèmes comment pouvons-nous résoudre les problèmes qui se présentent à nos consommateurs? Donc leur offrir une réparation. Nous sommes tous confrontés à des problèmes. Alors, je voudrais parler de ça spécifiquement depuis mon point de vue extérieur et vous dire la manière dont je pense que cela pourrait s'appliquer à ICANN. En matière de transparence, il y a beaucoup de consommateurs qui achètent des noms de domaine et qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il est extrêmement important que en tant que registraire accrédité. Donc il y a peut-être des modes d'éducation des consommateurs, parce que ce sont des gens comme mon père qui achète un nom de domaine pour son secteur d'activité et il n'a aucune idée de la manière dont ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a un rôle éducatif à jouer pour garantir qu'il achète le meilleur produit, le produit qui lui convienne le mieux. Ensuite, il faut garantir la possibilité de choisir le meilleur fournisseur ou de pouvoir faire du shopping. Parce que si on veut que le marché fonctionne bien, ça veut dire que les consommateurs doivent pouvoir très rapidement quitter un fournisseur pour s'adresser à un autre. Alors, par contre, on a des problèmes si on cherche un nom de domaine chez un registraire et si, en conséquence de ma recherche, donc ce registraire aide ce nom de domaine pendant quelques semaines. Et en fait, il faut résoudre ce type de problème et puis cesse de le soutenir. Il faut vraiment résoudre ce type de problème pour que les consommateurs puissent vraiment faire des comparaisons réalistes. Alors, le marché des noms de domaine est un marché mondial. Et ce que ça signifie souvent, c'est que si j'enregistre un .tv ou si j'enregistre un nom de domaine, ce n'est pas nécessairement chez quelqu'un de mon propre pays. Alors, quel est mon système de réparation si j'ai un problème avec ce registraire? Comment est-ce que j'aborde ce problème s'il se trouve dans un autre pays et que je ne peux pas directement l'assigner en justice, par exemple, ou lui demander des réparations? Donc voilà, je pense que ce sont trois problèmes clés auxquels ICANN doit réfléchir. Tout d'abord, je vous présente mes excuses parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Je m'appelle Alex. Et on pourrait peut-être m'appeler le consommateur Alex parce que je travaille avec ce secteur d'activité depuis de nombreuses années à ce titre. Et l'orateur précédent a parlé de mon engagement. J'étais confrontée à beaucoup d'hostilité en tant que consommateur africain. En fait, il y a la brèche digitale, mais il y a aussi la brèche en termes de connaissances. Et les acteurs du secteur ne font pas ce qu'ils disent. Ils font énormément de profits, mais ne respectent pas leurs engagements. Alors je vous dis ça comme toile de fond, parce que au cours de nos discussions, donc par le passé, et pour qu'à l'avenir nous sachions d'où nous venons. Parce que les pays en voie de développement, les pays développés, pardon, ont de très bonnes législations. La situation est meilleure que la nôtre. Et en tout cas, en ce qui concerne les réparations en cas de problème, tout est mieux conçu. Mais moi, j'ai quelques points de base. Je dois dire que je viens ici avec l'esprit très ouvert. Je vais essayer d'aller droit au but. Si vous voyez que je m'égare, excusez-moi, mais je vais essayer d'aller le plus directement possible au but. Alors, certaines des choses que j'ai apprises au cours de ces années, c'est que j'ai appris à voir les consommateurs comme des personnes qui sont sur les limites d'Internet, vraiment sur la frontière. Ils sont à la fin, donc au bout de la chaîne, à la fin du réseau. Ensuite, tout doit être basé sur des droits. C'est-à-dire que pour que je ne puisse pas former une entreprise dont l'activité soit la protection des consommateurs, pour que ce ne soit pas un business, un commerce qui me permette de gagner de l'argent. La protection des consommateurs ne peut pas faire gagner de l'argent. Alors, il y a le thème sans fin de le respect de la vie privée par opposition à la sécurité. Lorsqu'on parle de cybercriminalité, automatiquement, on nous donne l'impression que nous sommes des criminels, alors que les fournisseurs de services de télécommunications, quelquefois, commettent des délits, par exemple, en diffusant des données privées, en diffusant des adresses de courrier électronique sans permission. Alors, il y a une réunion qui a eu lieu il y a 4 ans et qui est intitulée « Les caractéristiques de l'économie Internet ». Et là, il y a des pays qui ont proposé une résolution sur les meilleures réglementations. Et il en ressortait qu'il fallait accroître la concurrence et protéger les consommateurs. Donc nous adoptons cette approche comme approche de l'ICANN, donc cette approche stratégique en augmentant la concurrence. Bien sûr, de nouveau, GTLD augmente la concurrence et renforce la protection des consommateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs de ces nouveaux domaines soient vraiment protégés. Je pense que ça pourrait être une très, très bonne approche stratégique et pour chaque problématique, nous pourrions affiner les détails. Et finalement, à part l'accroissement de la concurrence et la protection des consommateurs, il faut que nous ayons un centre de diffusion des connaissances. C'est tellement, ce qui soit tellement simple que n'importe qui, n'importe quel grand-père puisse aller là et lire les informations et comprendre les choses. Les gens ne savent même pas ce que c'est un nouveau GTLD. Donc, et des gens qui sont des experts ne le savent même pas. Alors, qu'en est-il des utilisateurs finaux? Il faut mettre les informations réellement à la disposition des utilisateurs finaux sous une forme compréhensible. Voilà, j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps. Nous venons de passer 20 minutes à faire un rapide tour de table et à discuter du concept de consommateur. Sébastien, tu voulais apporter une contribution? Alors, si quelqu'un d'autre souhaite apporter une contribution à cette partie de la réunion, parce que ce que je suggère, c'est que très brièvement, très rapidement, nous passions au mot suivant de ce débat de cet après-midi, qui est l'agenda, l'ordre du jour. Donc, que devrait être l'ordre du jour lorsque nous sommes dans le contexte de l'ICANN? Merci, Rosemary. Trois points rapidement. Le premier, c'est sur les canaux de distribution. Nous parlons de registre et de registraire, mais entre le registraire et l'utilisateur final ou le consommateur final, il y a quelquefois différents acteurs, comme par exemple les revendeurs, les boutiques de technologie de l'information qui ancrent, qui insèrent le nom de domaine dans un projet de technologie de l'information. Et il peut y avoir un contrat entre le registre et le registraire et rien avec le reste des canaux de distribution, les autres canaux de distribution, et ça aussi nous devons le prendre en considération. En ce qui concerne la fluidité du marché maintenant, je pense que c'est assez facile de déplacer un nom de domaine d'un registraire à un autre. Mais qu'en est-il, par exemple, d'un portefeuille de nom de domaine pour les entreprises? Comment peuvent-elles faire ça? Comment pouvons-nous fluidifier le marché si vous devez prendre chaque nom de domaine et faire quelque chose pour passer d'un endroit à l'autre, en tenant compte du fait que votre registraire est peut-être unique, mais les registres ne sont pas uniques et les règles qui s'appliquent à chacun ne sont pas les mêmes? Ça peut créer d'énormes difficultés. Si on veut fluidifier le marché, c'est une des questions qu'on doit aborder. Et finalement, c'est peut-être plus sur le ton de la blague, mais il me semble que l'objectif exprimé par ICANN d'ouvrir le marché ouvrira aussi la confusion pour les consommateurs. Alors, c'est très bien d'avoir davantage de noms de domaine. Je ne sais pas si mon père aurait jamais acheté un nom de domaine, mais si son père achète un nom de domaine demain, s'il ne sait pas aujourd'hui avec les 225 CCTLD, GTLD, comment saura-t-il demain ce qu'il fait et comment le faire avec 500 nouveaux GTLD? Et nous devons réfléchir à ça aussi. Donc, c'est bien d'essayer d'ouvrir le marché, mais il faut peut-être éviter de générer encore davantage de confusion. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite apporter une contribution à ce stade? Bonjour, je m'appelle Alejandro Pizanti. Je viens du Mexique. Centro Geo. Alors, je cours le risque de combiner deux métaphores. Je vais peut-être casser des verres et renverser un peu d'eau froide, mais j'espère nous aider à avancer pour oublier l'histoire un peu. Alors, les discussions des problématiques affectant les consommateurs étaient très présentes au cours des premiers stades de l'existence de l'ICANN. Et j'en vois qui opinent du bonnet, donc ça veut dire que c'est bien la réalité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème de consommateurs sur Internet, et ce n'est pas le fait qu'il ne s'agisse pas non plus de problèmes de consommateurs sur le marché des noms de domaine, mais ils sont assez étroits par définition, et on peut passer en revue plusieurs des arguments ici et regarder où nous en étions il y a 10 ans, voir ce qui a changé et voir si nous avons la possibilité de progresser. Alors, merci beaucoup pour votre excellente description de ce que peuvent être les problèmes de consommateurs. Alors, je suis d'accord que les compagnies de télécommunications, avec les services publics et entre autres les fournisseurs d'électricité, sont les sociétés qui sont l'objet de plus de plaintes. Mais ce sont aussi les sociétés où il y a le plus de grèves. Donc, les échecs des plaintes des consommateurs dans le secteur des services publics doivent être comparés aux bases de clientèle pour pouvoir vraiment déterminer la proportion. Mais bon, je ne vais pas défendre aucun secteur, mais au-delà de l'anecdote, je voudrais dire que le point important, c'est que ces chiffres sont trompeurs, à moins qu'ils ne se reflètent en tant que pourcentage de la base de clientèle. Alors, la problématique qui s'applique ici, le problème ici, c'est le problème de la réparation et de la mobilité. Alors, ces deux aspects ont été intégrés dans les registres. Et les registraires travaillent dans une certaine mesure sur ces aspects. Nous avons eu besoin d'une crise importante avec nos registraires pour que les gens se rendent compte qu'ils devaient pouvoir reprendre et fermer un registraire pour emmener le client vers un autre registraire. Et alors, à ce moment-là, on peut avoir des réparations et la mobilité, assurer la mobilité. Donc, pour en venir maintenant au point agenda, donc ordre du jour, il faut que nous voyons comment ça fonctionne et que nous voyons comment nous pouvons offrir de meilleures protections. Alors, le second point, c'est au sujet des contrats individuels des consommateurs pour les noms de domaine. Ils se trouvent toujours dans des cadres nationaux spécifiques. Vous avez raison, c'est un marché mondial. Mais si au Mexique, moi je décide d'enregistrer un nom .tv avec GoDaddy, il s'agit d'une transaction commerciale avec GoDaddy aux États-Unis. Et en tant que consommateur, comme c'est une transaction que je fais aux États-Unis, ce n'est pas le cadre juridique du Mexique qui s'applique. Si je regarde les petites lettres dans le contrat avec GoDaddy sur lequel je vais cliquer, il y a des clauses qui disent quel est l'environnement, quelles sont les lois qui s'appliquent, etc. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais jamais être une agence de protection des consommateurs dans le cyberespace, parce que tout cela a lieu dans un cadre bien spécifique. Les lois existent dans un cadre bien spécifique et le fait que ce soit mondial, ça complique les choses, mais chaque transaction a lieu dans un cadre juridique bien spécifique, selon une base juridique bien spécifique. Alors, il y a 12 ans, de toute façon, les gens ont décidé qu'ils étaient des propriétaires individuels de noms de domaine et qu'ils voulaient avoir une protection et du pouvoir en tant que personne, en tant qu'individu. Et ils ont essayé plusieurs fois de créer un regroupement de noms de domaine individuels. Mais ça allait dans tous les sens, à cause de conflits de personnalité, à cause de différentes raisons. Et pour une raison fondamentale qui conditionne toujours ce que nous faisons, ça fait du tort aux parties prenantes non commerciales, aux groupes des utilisateurs non commerciaux. Donc, par exemple, imperceptiblement, en fait, c'est une différence graduelle. Vous pouvez être le détenteur d'un nom de domaine, mais qui vous dit que vous n'enregistrez pas taylorreynolds.org aujourd'hui pour une utilisation très individuelle, et puis finalement, il s'avère que c'est une compagnie de production de cigarettes. Et vous devez arrêter vos activités sous ce nom de domaine. Ce n'est jamais vous qui décidez de payer des milliers de dollars pour un nom de domaine. Mais constitutionnellement, c'est difficile. Donc moi, j'encouragerais chacun à utiliser les connaissances qui ont déjà été accumulées au cours de ces 12 années au lieu de tout recommencer à zéro. En fait, c'est un tremplin vers le mot suivant, donc sur un ordre du jour, sur notre ordre du jour, qui est ordre du jour, justement. Nous avons eu des contributions dans la discussion du type de choses qui pourraient intéresser l'ICANN. Donc, je ne sais pas maintenant s'il y a des apportations de la part des autres participants sur le type d'ordre du jour qui devrait être au centre des réunions de l'ICANN. Je vais reprendre mon souffle, m'éclaircir la gorge et essayer de partager avec vous des paroles très sages d'un gourou internet bien connu, Milton Euler. Alors pour le paraphraser, toutes les divisions, tous les conflits, toutes les choses qui ont séparé les gens qui travaillent sur les problèmes des consommateurs, c'est « who is ». Donc, pour tout ordre du jour lié aux problèmes des consommateurs au sein de ICANN, je dirais c'est que les deux factions au sein de la communauté des utilisateurs et des consommateurs se rassemblent ou arrivent à un accord avant que nous puissions faire des progrès. Voilà, ça c'est ma sage suggestion. Et Milton l'a dit à New York il y a quelques mois. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez le voir. Parce que ça a été transcrit, transmis et enregistré, c'est offert par la New York Internet Society, Société Internet de New York. Et il y avait une caméra qui suivait l'équipe d'orateurs dans tout l'hôtel et à partir des chambres. Donc c'est pour ça que on le voit mettre son pantalon, en fait. Donc on vous explique simplement pourquoi. Ce n'est pas simplement une plaisanterie. Alors pendant que j'ai le micro... Alors, je voudrais revenir à ce que Andrew disait et qu'au début, l'ordre du jour commence par un travail préparatoire. Et ce travail préparatoire consiste à utiliser ce qui a été fait par le passé pour développer une base déjà acquise. Et à partir de là, on peut essayer d'arriver à une compréhension commune des problématiques et on peut essayer de s'entendre sur les problèmes. Alors tout d'abord, je pense que le point qui a été soulevé sur la différence de juridiction et l'applicabilité de la loi de l'opérateur auquel vous achetez le nom de domaine, c'est un aspect très important parce que c'est lié bien sûr à l'aspect, à la dimension de la réparation en cas de conflit, en cas de problème. Alors juste une idée ici, une des choses que ICANN fournit ou essaye de fournir, c'est la tentative de combler cette brèche entre une solution aux problèmes mondiaux qui seraient complètement internationales ou complètement à base nationale. Donc, on dirait qu'on fait toujours le grand écart. Soit on a le choix, soit on fait un traité complètement mondial qui couvre tous les pays, ou bien alors on en revient au niveau national. Ce qui est intéressant dans ICANN, c'est que très souvent, on peut essayer d'exploiter un peu plus la zone intermédiaire, au milieu. Alors, en cas de réparation, si vous avez un problème, il peut peut-être y avoir un mécanisme au lieu de... Bon, par exemple, disons que le registraire se trouve en Lettonie et le registrant est au Ghana, par exemple. Ça peut se passer, ça peut arriver et c'est bien. Mais s'ils doivent régler un problème, C'est stupide de demander au type du Ghana d'aller en Lettonie ou de demander au petit registraire en Lettonie d'aller au Ghana ou de développer une présence au Ghana. Donc, tout mécanisme de résolution de litige facile. Lorsque je dis facile, je veux dire light. Quelquefois, il y a des cas où les solutions peuvent être facilement trouvées et on pourrait peut-être explorer les possibilités de médiation qui ne seraient pas gérées nécessairement par ICANN, mais qui pourraient être encouragées au niveau local. Par exemple, il y aurait des gens qui serviraient une région et qui ce serait un accès facile pour l'intermédiation. Alors, la juridiction, par rapport à l'applicabilité de la loi internationale, il y a ce cas célèbre de cette personne en Espagne qui achète un nom de domaine à INAM, ou un registraire des États-Unis, et qui vend des voyages aux États-Unis. Et puis, il se fait retirer le nom de domaine parce que ce n'est pas sous la législation des États-Unis. Donc, ce type de question de l'applicabilité de la législation est très délicate. Et là, il faut de la sensibilisation, comme vous l'avez mentionné. Et finalement,
je suis d'accord avec ce qu'Alejandro a dit, dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point. Le danger, l'ICANN, quand on parle d'histoire, c'est aussi des placards avec des cadavres. Donc, prétendre ouvrir la porte, c'est aussi ouvrir un peu la boîte de Pandore. Et finalement, on débat toujours de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Oui, je me souviens de cette réunion ICANN ou de ce groupe-là. Bon, ça ne doit pas nous empêcher parfois de rouvrir certaines questions. Le statut des registraires dans la formulation politique de l'ICANN suscite beaucoup de questions. Comment on distingue ceux qui sont individuels des gros détenteurs de portefeuille de domaines, hein? La réalité aujourd'hui est que même les détenteurs de portefeuille de domaines n'agissent pas de façon visible, hein, ou avec une identité visible dans les systèmes ICANN. Enfin, le dernier point que je souhaitais mentionner, je suis d'accord avec cette notion. On a parlé du marché des noms de domaine et des consommateurs, mais il faut comprendre que même si quelqu'un achète un nom de domaine, cette personne va développer une application et qui fait que cette personne devient un intermédiaire. Et la stabilité du registre, vous achetez en toute bonne foi, et c'est important dans tout processus GTLD, vous achetez un domaine de bonne foi avec la promesse d'un GTLD. Vous concevez votre marque, développez votre activité sur une adresse totalement nouvelle et puis d'un coup, parce que le registraire a mal agi, ça ferme. Milton, je n'ai jamais adhéré à l'argument selon lequel le nom de domaine et le marché est un marché libre, certains disparaissent, d'autres font faillite. Non, c'est une fonction au service des utilisateurs. Et beaucoup des applications qui vont apparaître avec le nouveau GTLD seront des applications complètement différentes de ce que nous faisons aujourd'hui avec les noms de domaine. Et je pourrais imaginer quelque chose comme des services DNSE avancés, connectant des IP et permettant à des serveurs de parler les uns avec les autres, et personne ne s'en apercevra, mais ça permettra de nouvelles applications importantes de voir le jour. Et quel est l'impact à long terme pour les utilisateurs? Nous sommes en train de surcharger les nouveaux entrants. Et c'est là le lien. J'écoutais Bertrand. Il y a des exemples cet exemple intéressant avec le Ghana et la Lettonie. Nous essayons de concevoir un système et on ne devrait pas les fonder sur les exceptions, mais sur une règle qui comporte des milliards de domaines. On devrait créer un régime où les consommateurs sont éclairés. Et vous n'achetez pas des noms de domaines, vous les louez. Et c'est là le problème de compréhension des gens s'agissant des domaines. Et ils n'ont peut-être pas lu l'accord avec le registraire, ils n'ont pas compris. L'ICANN fait énormément avec les délais de grâce. Mais si vous pensez avoir acheté le nom de domaine, ce n'est pas le cas. Donc l'idée d'avoir des consommateurs éclairés et avoir un ordre du jour autour de ce que cela signifie serait probablement la chose la plus essentielle à faire. Et ensuite, que se passe-t-il avec 500 nouveaux registres? Eh bien, vous publiez les politiques, les choses sont comprises, devraient être comprises, et pour ce faire, elles doivent être présentées en termes clair et simple. La première chose à faire, c'est d'avoir des consommateurs éclairés. Ce qu'Adam a dit, il y a eu un début de conversation dans la communauté at large, et on profite de la présence des registraires ici. Il y a une volonté d'identifier une façon d'être plus réactif, d'éduquer la communauté, de travailler ensemble. Et il y a la volonté de vouloir travailler ensemble et de l'engagement de prêter attention aux plaintes. Et une solution la plus simple et la plus immédiate avant que les choses ne s'enveniment serait positif. Et ne pas s'enliser dans les différences entre pays A, pays B, produits achetés dans un pays C. Je crois qu'il y a une toute petite marge de manœuvre et peut-être une fenêtre d'opportunité avec ce que nous faisons aujourd'hui et une nouvelle volonté. En tout cas, les registraires que nous avons rencontrés aujourd'hui, et il y a une volonté d'écouter. Un commentaire très rapide. Merci. Dans le règlement ICANN, ICANN doit servir l'intérêt public mondial. Nous sommes des citoyens Internet. Et si ICANN parvient à faire cela, eh bien, c'est une bonne chose. L'orateur s'interrompt. Les consommateurs élaborent leur propre marque. Et une fois que votre activité est florissante, les registraires sont très loin, en dehors du cas de la Lettonie, et il y a un domaine qui reçoit du trafic et tout d'un coup, il y a des problèmes, ils ne veulent pas renouveler votre domaine, il y a des difficultés de transfert, et vous perdez votre domaine dans certaines circonstances qui sont loin d'être transparentes. Alors, une façon de pousser plus avant cet ordre du jour pour les consommateurs au sein de l'ICANN, c'est de demander à tous les registraires accrédités de soumettre tout simplement ce qu'ils ont mis en place pour la protection des consommateurs. C'est simple. Et sinon, on peut leur en proposer. Et l'ICANN publie. Et qu'on les laisse se pendre tout seuls, en quelque sorte, s'ils n'ont pas fait. Autre point à l'ordre du jour, découlant de la définition du terme consommateur, c'est le nombre d'entités. L'orateur s'interrompt. Disons l'aspect de représentativité. Le GAC pense, à juste titre, qu'il agit dans le meilleur intérêt des individus dont les gouvernements sont représentés là. Ce que le GAC fait met l'accent sur les consommateurs. At large, représente la communauté, les communautés d'utilisateurs. Alors, les agences de répression estiment qu'elles agissent au nom des intérêts des consommateurs dans la communauté ICANN. On l'a entendu lundi soir. Donc, la définition nous est fournie, puisque nous ne sommes pas parvenus à embrasser toutes les différentes associations que peut recouvrir ce terme. Merci, Cathy Clement, PIR. Comme Bertrand l'a dit, registrant n'était pas un mot qui était largement évoqué au début de l'ICANN, mais il est de plus en plus évoqué. Je ne sais pas si l'idée est d'avoir une nouvelle entité ou s'il s'agit d'intégrer cet ordre du jour consommateur dans d'autres domaines. Alors, il y a un domaine dans lequel les registrants ont pris une importance croissante, c'est dans le groupe d'intégration verticale. Les registraires et inscrits ont été couverts et puis après on s'est interrogé sur les registres. Alors, qui servons-nous ? De quoi retourne-t-il ? Des registraires locaux servant leur communauté dans leur langue et des clients. Et il n'est pas nécessaire de renoncer à sa juridiction dans le contrat. Vous pouvez rester dans votre pays, dans votre région, et vous n'avez pas à vous déplacer de par la planète. Donc il y a une éducation, mais il y a également la question des registraires dans chaque forum. Et on peut tous y participer.
Good morning, I'm Luca Belli.
Luca Belli, l'Université du Panthéon à Paris. Si vous prenez en compte les utilisateurs, l'ancienne mode, on risque de ne pas combler le fossé numérique, mais au contraire d'agrandir ce fossé. Je vous encourage à prendre en compte tous les utilisateurs, non pas comme communauté unique, mais il y a une législation spécifique aux consommateurs en Europe qui leur accorde beaucoup de droits et qui considère chaque utilisateur comme consommateur et qui distingue deux consommateurs. Les consommateurs européens et ceux qui ne peuvent pas relever de la protection européenne accordée aux consommateurs. Donc il est très risqué de traiter de cette question parce qu'elle est complexe.
Just a quick example of what...
Un exemple de ce que j'ai dit. Alors, l'Association sud-africaine des fournisseurs d'Internet encourage les membres à endosser un code de conduite. Il y a une maison de la honte et là, ils mettent les noms des mauvais fournisseurs. Et il y a pas mal de choses qui sont de l'éducation. Alors, protection des consommateurs, confidentialité, fournisseurs des informations aux consommateurs, clause quant aux normes, pourriel, protection des mineurs, cybercriminalité. Bon, je vous énonce tout ça. Ça, c'est un exemple. En l'absence de ceci, compte tenu des coûts juridiques liés à certains domaines, en Afrique et en d'autres endroits de la planète, les gens n'ont pas les moyens d'aller en justice. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cet ordre du jour? Oui, je reviens sur ce qu'Alex a dit. Alors, ce ne sont pas des systèmes dans certains pays qui sont très onéreux. Il est important de savoir que il y a des codes de conduite de l'industrie concernant les CC inscrits et registraires. Donc ce n'est pas une tâche impossible. Mais dans notre ordre du jour, on pourrait inclure une étude. Je sais qu'on se concentre essentiellement sur l'environnement G, mais je suis certaine qu'on peut apprendre des exemples concernant certains CC. ça vous semble raisonnable? Ça vous semble être une bonne idée à explorer?
Can I add something on agenda?
Puis-je intervenir du fond de la salle? C'est intéressant. Je m'appelle Avery. Et il est important de comprendre combien les inscrits sont importants et les registreurs de GTLD sont. Mais quand j'examine la question, il y a énormément de possibilités qui émergent. Il faut examiner les CCTLD parce qu'il y a des variations. Mais il faut également envisager l'ICANN comme une organisation qui est face à des consommateurs. L'ICANN ne vend aucun service, mais l'ICANN a toute une série de fournisseurs qui peuvent offrir des services de règlement de litige ou qui peuvent vendre tel type de service. Surtout quand on examine le nouveau plan pour les GTLD, où il va y avoir une multiplication de services qui sont vendus. Revoir les mécanismes de règlement des litiges. Et une des choses qui m'a fait plaisir ici, c'est que on veut une relation beaucoup plus vaste entre l'ICANN et les consommateurs et qui ne se limite pas aux registraires. Donc c'est un concept beaucoup plus vaste. Et l'ICANN est une organisation qui a face à elle des consommateurs. Ça, c'est un point très important. Merci.
Bertrand de la Chapelle again. Actually,
Bertrand de la Chapelle. Je soutiens l'idée d'examiner les CC comme Charlie l'a suggéré. Les meilleures pratiques ici sont à prendre en compte. Alors, certaines des tendances du GAC, il y a une responsabilité nationale quant au CC, mais il y a une responsabilité générale également des CC vis-à-vis de la communauté et de la communauté mondiale d'appliquer des normes élevées dans leur relation avec leurs clients et dans leur comportement. Je ne suis pas convaincue que ce soit toujours le cas. C'est quelque chose qui se produit au plan national, mais une évaluation des bonnes pratiques est une façon d'exercer une pression sur les pairs. On ne fait probablement pas suffisamment de choses pour avoir cette pression, qu'elle puisse être effectuée. Mais on nous a souvent dit, vous endommagez votre propre communauté si vous ne vous assurez pas que vos accords sont respectés et que tous les membres respectent ceux qu'ils ont acceptés en signant un contrat. L'autre chose, je soutiens tout à fait ce que Avery a dit. Lorsque nous parlons de consommateurs, il s'agit essentiellement d'impact. Et du point de vue de l'ICANN, on doit se demander quel est l'impact de ce qu'ICANN fait, des politiques que l'ICANN formule, quelles conséquences sur l'espace général et les utilisateurs d'Internet. Ceci nous renvoie à la notion de bénéfices sociaux, tout particulièrement l'introduction des nouveaux TLD. Je me félicite de l'étude économique qui a été réalisé parce que cela démontre que l'introduction des GTLD n'est pas uniquement une question économique, mais quelque chose qui va entraîner des avantages sociaux. Et le consommateur de dire c'est bien de traiter bien les consommateurs quand ils vous payent pour avoir un domaine. Mais il y a aussi un autre aspect de la question, comment est géré cet espace afin que les avantages sociaux les plus élevés puissent être réalisés pour la communauté, avec un domaine qui est un espace qui est compréhensible, qui est gérable.
Thank you, Rosemary.
Merci. Rosemary, je voudrais lire un commentaire de M. Drake sur le chat room. Il s'agit de rationaliser aussi quelque chose dans les débats politiques. C'est d'abord un critère d'évaluation. Je vais établir un parallèle. Au l'IGF, j'ai été favorable à l'élaboration d'un ordre du jour pour une gouvernance Internet. Et quand on examine toute question ou toute institution de manière transversale, on se demande s'il y a des considérations associées à ceci, des impacts positifs ou négatifs à prendre en compte de façon holistique. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole sur ce point de l'ordre du jour, je vous propose de passer à l'élément suivant, l'ICANN, et la contribution de Bill ouvre la voie. Une discussion sur un point portant sur les consommateurs pour l'ICANN. Est-ce que ça appartient uniquement au GNSO, au GAC, au CCNSO? J'aimerais connaître vos points de vue sur la façon dont ce point pourrait être relié à l'ensemble de l'ICANN ou à différents départements ou services de l'ICANN. Il y a eu un groupe qui s'est réuni pour discuter des améliorations apportées au RAA. Est-ce qu'il y a moyen d'inclure les droits des registraires dans le RAA? Et on a débattu de cela longuement. Et à la suite, on s'est scindé en deux groupes et l'un devait réfléchir à ce que l'on a appelé une charte idéale. Et comme si les droits des registraires étaient une aspiration idéaliste, alors qu'on parlait de la définition de ces relations. Alors, à quoi ressemblerait une telle charte? Il a fallu 10 minutes pour avoir une liste de 10 éléments à inclure dans une telle charte. Ce que l'on a à l'heure actuelle, c'est donc une charte idéale. Alors, il n'y avait pas beaucoup de gens là pour travailler là-dessus, mais en tout cas, c'était une idée originale. Et j'espère que ce groupe va pouvoir continuer à travailler sur cette idée et va pouvoir déterminer les intérêts des registraires dans toutes ces transactions, les inscrits, pardon, avec toutes ces transactions qui ont lieu au-dessus de sa tête. Donc, il y a eu des tentatives dans le contexte ICANN. Et ça n'a pas été très bien perçu, malheureusement. Non. Qu'est-ce que vous vouliez que j'ajoute? Intervention en micro. Oui, j'y étais. Et ce serait bien que ce groupe s'en saisisse, mais il ferait bien de faire un travail qui soit plus représentatif parce que ce document, finalement, était assez faiblard. Le GNSO, lui, a produit un document qui était beaucoup plus étoffé, qui avait davantage d'envergure. Alors, je ne sais pas comment je peux vous en dire plus pour contribuer utilement à cette réunion. Alors, pour ce qui est de l'ICANN, Telcos, la plus grande menace à la protection des consommateurs, c'est les grosses sommes d'argent. Bon, l'ICANN, c'est quelque chose de différent. Et le fait que nous sommes ici en train de discuter de la protection des consommateurs prouve qu'il en va autrement pour nous. Mais il y a également beaucoup de lobbying. Quand on regarde l'ICANN comme une institution, l'organisation comme étant face à des consommateurs, eh bien, les entreprises préféraient qu'il n'y en ait pas. Si elle voulait un Internet parfait, elle multiplierait les infrastructures, donc elle préfère s'économiser ses investissements et puis gérer des quelques plaintes qui leur parviennent. Donc en fait, ce point consommateur déraille et va se perdre.
Je me demande si je peux demander à Taylor et à Bill quelque chose, parce que Taylor, je suis intéressée par ce travail sur le fait de donner du pouvoir et de l'autonomie aux consommateurs. Et je voudrais savoir s'il y a des principes qui sont généraux, qui sont ressortis de ce travail et ces conseils de l'OECD au gouvernement. Et ensuite, dans la sphère publique, lorsque nous réfléchissons à un ordre du jour pour l'ensemble de l'ICANN, je me suis dit que c'était peut-être un exemple. Il pourrait y avoir là des exemples qui pourraient nous aider. Merci, Rosemary. Alors, il y a juste 7 points ici, très rapidement. Donc, qui résume les conseils politiques de l'OCDE sur la protection des consommateurs. Je pense que certains d'entre eux pourraient s'appliquer. Alors, encourager le développement de services qui offrent aux consommateurs une série de produits de qualité. Ensuite, donc, j'en ai pas parlé auparavant, mais informer les consommateurs sur les risques potentiels pour leur sécurité et leur vie privée en utilisant ces services, comment ils peuvent limiter ces risques, améliorer l'information des consommateurs sur la disponibilité, les avantages de ces services, améliorer la transparence des contrats et assurer qu'ils ne soient pas injustes pour les consommateurs, minimiser les coûts lorsqu'il s'agit de changer de service, on en a parlé, permettre un traitement juste, facile et bon marché des plainte des consommateurs, assurer que les services soient largement à la disposition de tous et particulièrement les consommateurs plus fragiles, vulnérables et défavorisés. Ce sont les 7 points qui sont ressortis clairement des conseils de l'OCDE. Lisoc? Alors, une réponse très brève au nom de mon ami, je ne sais pas exactement ce que vous vouliez par rapport à cela, mais par rapport à certains des sous-projets dans la sphère des Internet Society, on peut voir ça du point de vue du fonctionnement du modèle. Alors, ce qu'il a fait, en fait, et ce qu'il fait encore, c'est bon, il est devenu très interactif avec les parties composantes de ce qu'utilise ISOC, l'Internet Society, la société Internet, et on assure que l'axe, donc qui est toujours le siège de la société Internet, s'engage de manière très proactive avec toutes les parties qu'elle constitue, donc tout le groupe qu'elle représente. La conception est assez radicale en ce qui concerne le fait de responsabiliser, de donner du pouvoir, de l'autonomie aux composants, aux constituants. Alors, si on veut vraiment changer de paradigme et utiliser des mécanismes que nous voulons réellement utiliser pour servir les consommateurs dans ICANN, mais en tout cas, l'objectif pour la société Internet serait complètement différent, pour ISOC serait complètement différent de l'objectif ici. Bon, j'espère que j'ai réussi à vous bredouiller quelque chose de compréhensible et qu'elle ne me tirera pas dessus lorsqu'elle me verra. Est-ce que nous pouvons demander à l'OCDE de nous dire brièvement comment les consommateurs sont représentés au sein de l'OCDE? C'est intéressant pour ce débat de savoir comment ils sont représentés en fait à l'OCDE. Je vous réponds avec plaisir. je dois expliquer que je suis un économiste qui travaille du côté des télécommunications. Moi, je m'occupe des infrastructures. Mais les groupes de consommateurs font partie d'un groupe consultatif qui vient à nos réunions sur les politiques de télécommunications et ils interagissent avec tous les gouvernements membres autour de la table. La même chose que ce que nous faisons ici. Ils ont un siège à table et ils parlent d'une voix unifiée dans un certain nombre de nos groupes de travail. En outre, nous avons un comité qui se concentre exclusivement à la protection des consommateurs, aux politiques à l'intention des consommateurs, et c'est un groupe qui se concentre uniquement sur les problèmes des consommateurs. Et il lance d'ailleurs une boîte à outils pour la protection des consommateurs qui sera disponible dans les prochaines semaines. Donc il y a toutes sortes d'outils que le gouvernement et les secteurs privés peuvent utiliser pour aider à la protection des consommateurs. Donc l'OCDE a beaucoup de mécanismes différents pour représenter les consommateurs. Merci, Saïd. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu tard dans cette réunion. Moi, j'ai compris qu'on parlait du contexte des AOC. Alors, si je regarde l'affirmation des engagements, donc le 9.3, ce qu'on y dit, c'est qu'il y a une vision un peu plus large de ce que ça signifie la protection des consommateurs et la liberté de choix des consommateurs. En tout cas, ce que je vois, c'est que on dit que l'ICANN doit se pencher sur différentes problématiques, elle doit lier au GTLD, y compris la concurrence, la protection des consommateurs, la sécurité, la stabilité, la résilience, les fraudes, et elle a aussi la protection des droits. Et on a entendu exprimer des opinions assez fortes sur la protection des droits, mais je voudrais savoir s'il y aura un suivi à cet agenda relatif aux consommateurs. Si on regarde le 9.3 et si on regarde cet agenda, il semble qu'on ait un terrain commun là pour travailler ensemble. Donc je voulais simplement demander si effectivement c'était logique ou si j'étais complètement à côté de la plaque. Non, c'était une contribution très utile et merci pour cette intervention intéressante. En fait, normalement, nous devrions travailler jusqu'à 17h30. Je sais que bon nombre d'entre vous doivent s'en aller et mettre leurs beaux vêtements pour le gala de ce soir. Mais je me demande si je ne pourrais pas encore prendre 5 minutes pour définir les étapes suivantes. En supposant que les personnes présentes ici souhaitent qu'il y ait des étapes suivantes et que nous fassions d'autres démarches. Alors, qu'est-ce qu'elles pourraient être? Qui voudrait participer à la poursuite de ce débat? Moi, ça m'intéresse d'essayer de retirer de ce débat les idées principales et peut-être les diffuser à des personnes pertinentes. Et avant de clôturer la séance, s'il y a des choses que vous voudriez proposer ou envisager sans enfermer personne dans un groupe d'intérêt, dans un groupe de travail, dans une équipe de rédaction, rien de tout cela. Je ne demande à personne de s'engager à ce point-là, mais je ne sais pas, juste s'il y a des choses que vous voudriez dire avant de clôturer cette session, nous pourrions terminer de cette manière-là. Oui, si vous me le permettez. Donc, c'est nouveau, Cheryl. Je voudrais que l'on voit l'espace Wiki Consumer Commons, donc terrain commun pour les consommateurs, que Avril a préparé. Et je pense que c'est un endroit à tout à fait approprié pour échanger des informations, pour continuer ce travail, pour poursuivre ce processus. Et je vais assurer Avril, en fait, nous allons voir ce qui est défini là-dedans comme priorité parce que le Wiki Confluence sera beaucoup plus convivial pour chacun, particulièrement étant donné la diversité d'intérêts représentés ici. Je vais simplement assurer que nous assurions la migration de ce Wiki dans le Wiki Confluence. Donc, Donc, les Consumer Commons, donc le terrain commun pour les consommateurs sera un endroit parfait pour ce type d'échange, pour la poursuite de ce travail. Si nous distribuons le résumé de notre discussion d'aujourd'hui et si nous incluons le lien vers ce wiki et si nous encourageons les gens à apporter leur contribution, à jouer avec nous dans le wiki, ce serait une bonne idée à mon avis. Je crois que c'est une excellente idée, Cheryl, et je crois que... Ce que j'en retire, c'est que les gens sont très contents de poursuivre cette conversation et nous pourrions même envisager de nous rassembler encore une fois, de nous réunir encore une fois à la prochaine réunion et voir quels sont les progrès que nous avons réalisés, les progrès qui ont été faits au cours des mois qui se seront écoulés d'ici là. Alors, je peux... N'éteignez pas immédiatement après la réunion parce que je peux avoir accès au link au wiki. Donc c'est pour remercier Rosemary pour avoir permis que cette rencontre et ces échanges aient lieu. Merci beaucoup, Rosemary. Et je pense que c'est une très bonne idée parce que cela va certainement être la nouvelle norme des meilleures pratiques. En fait, ce que nous mettrons là, nos gouvernements, nos fournisseurs de services vont être intéressés. Je pense que l'impact va être considérable et donc je suis très intéressée. Je trouve que c'est une très bonne idée. La question que j'ai posée, je suis désolée de revenir en arrière, mais j'ai posé la question par rapport au 9.3. Est-ce que 9.3 doit devenir une équipe d'évaluation? Et je me demande pourquoi nous attendons encore un an après l'introduction des nouveaux GTLD avant de démarrer le travail de cette nouvelle équipe. Je sais que c'est dans l'affirmation des engagements et on ne peut pas déplacer une seule virgule de ce document, mais mon sentiment, c'est que si cette équipe pouvait être mise sur pied maintenant, ce serait vraiment une très bonne idée pour traiter tous les problèmes dont nous avons discuté ici. Mon dernier commentaire, c'est que j'ai demandé... au staff de faire des copies des documents qui sont ici. Et même dans le plan opérationnel et dans le budget, on mentionne l'intérêt des consommateurs, l'intérêt public et l'étude économique pour le GTLD, l'affirmation des engagements. Si vous êtes intéressé, si vous voulez jeter un coup d'œil à ces documents, ils sont à votre disposition ici. Alors, merci beaucoup à tous.
No.